méditer le chapitre. C'est bien Pinchas cette semaine. Tu vas dans mon bureau, tu m'apportes des mitzvahs à la place de Tavari. Non, c'est ouvert, c'est ouvert. Tu as pu les avoir?
Oui,
non, mais j'ai eu le message. Eh bien, tu as la Rachel, qu'elle essaye.
J'ai eu
la femme dans mon avis. Ah, d'accord. Bien, en qu'on m'apporte le livre, est-ce que vous avez une question particulière sur la paracha? Parce que, bien entendu, vous avez lu la paracha.
Je ne sais pas s'il est possible d'avoir une définition de ce que c'est un zélote.
Hein?
Un zélote, Pinchas qui est défini comme un zélote.
C'est un mot français qui... très rapidement, ça définissait une secte. Au temps de Baït Chéni, surtout à la fin du temps de Baït Chéni, de la lutte contre les Romains. Et aujourd'hui, les historiens, les journalistes essayent de trouver des analogies entre ce qui se passe actuellement dans le pays et ce qui a pu se passer au temps de Baït Chéni dans la lutte des Judéens contre les Romains. Mais ce sont des analogies absolument arbitraires. Il y avait deux camps déjà au temps de Baït Chéni, grosso modo. Ceux qui ne voulaient pas faire la guerre contre les Romains et voulaient accepter la domination romaine, et au contraire ceux qui ont voulu se révolter contre Rome. Et une partie de ceux qui se sont révoltés contre Rome était plus, disons, pour employer des termes encore pas exacts mais contemporains, était beaucoup plus déterminé, je ne veux pas dire extrémiste, parce qu'à partir du moment où quelqu'un a décidé de se révolter contre l'occupant romain, il n'y a pas de différence entre modéré et extrémiste. Ces différences-là n'ont pas de sens réel sur le terrain. Par exemple, lorsque la propagande israélienne contemporaine feint de voir une différence entre des Arabes anti-israéliens modérés et des Arabes anti-israéliens extrémistes, moi je ne vois pas la différence. Je ne sais pas si c'est clair. D'ailleurs, personne ne voit la différence, même pas le gouvernement. Enfin, les questions de stratégie politique, c'est un autre problème. Et alors, on a l'habitude, enfin, les historiens ont l'habitude d'appeler les zélotes une sorte de secte, pas secte, même pas une secte, c'est une tendance dans le peuple, qui, chaque fois qu'il rencontrait un Romain, s'expliquait avec lui. Un peu ce qui s'est passé au temps de l'occupation en Europe. Chaque fois qu'on rencontrait un SS, on s'explique avec lui. Et alors, c'est ça, les zélotes, dans le langage des historiens et des journalistes. Il y avait, en particulier, une confrérie. C'était les Sicarikim. C'est un mot latin qui est passé en hébreu, les sicaires, en latin. C'était un peu les mercenaires de l'armée romaine. Dans l'armée romaine, comme dans toutes les armées, il y avait ceux qui étaient, disons, envoyés à la guerre par leur pays, par leur gouvernement. Et puis il y avait les Srirechev, comment on traduisait en français ? Des mercenaires.
La Légion étrangère.
La Légion étrangère, si vous voulez. En général, c'était des... la plupart des soldats romains, c'était des étrangers. Hein, ce qu'on appelait les... Je sais pas si c'est à Rome ou en Grèce qu'on les appelait les métèques. C'était à Rome ou en Grèce? Les métèques. Hein?
C'était en Grèce?
En Grèce. Et à Rome, comment on les appelait? Pas les plébéiens, c'était encore autre chose. Bon, bref, vous avez compris ce que ça voulait dire. L'Empire romain, il y avait à la tête, il y avait les Romains, mais il y avait énormément de gens de tous les pays qui étaient sous la domination de l'Empire romain et qui s'engageaient dans l'armée romaine. Et alors, les sicaires étaient experts au poignard. Un peu les commandos, quoi. Les marines américains ou bien les soldats de marine français, comment on les appelait en France, je voulais. Les marins. Non, pas les marins. Les fusiliers marins, bien fait. J'ai oublié, j'en étais, mais j'ai oublié. Et alors, Ce mot a été attribué donc à un mouvement de juifs qui, eux, ne faisaient aucun quartier aux Romains, les sicaires. Alors c'était ça, les zélotes. Mais regardez, par exemple, il m'arrive de recevoir beaucoup de goïms qui viennent à Jérusalem pour essayer de s'éclairer sur la situation dans le pays, ils font un méli-mélo, un amalgame entre les haridim, les mitnachalim, tout ça pour eux, c'est la même chose et le contraire simultanément. Ils appellent ça les extrémistes. Alors je suis obligé de défendre les haridim en leur expliquant qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Bon, voilà, c'était que les zélotes.
Mais le fait. S'attribuer à
Pinchas. Non, c'est une question de.
Ça n'a rien à voir,
c'est une question de vocabulaire. On va voir le verset. Bien, on va voir le verset.
Comment a été fait, comment a été réparti le territoire entre les tribus, les gens.
Parce oui,
donnez-moi
un quart
deux,
de feuille de papier.
Il y a deux éléments. Finalement, le camp qui a été fait à la sortie d'Égypte et le camp qui est en train de se faire maintenant. Et comment ça se ressemble.
Oui, effectivement. Bien, alors on va prendre le début de la paracha puisqu'il y a le terme de canon. Alors c'est Pinchas. Alors prenez depuis le début de la paracha, c'est verset 10. Du chapitre 25. Alors, Vayaver Hashem el Moshe l'emor, je ne traduis pas, Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen, Eshiv et Chamati Mial ben Israël, Pinchas, fils de Eleazar, fils de Aaron, le prêtre, et tout de suite on est averti du caractère un peu paradoxal de l'acte de Pinchas, et je vous rappelle très brièvement ce qui nous est donné dans les versets immédiatement précédents. C'est que lorsque la tentative de Balak de faire maudire Israël par Bilham, cela nous avons étudié la semaine dernière. Quelle est cette stratégie de la malédiction? Je ne veux pas y revenir, mais enfin, ce n'est pas clair pour tout le monde. C'est tellement contemporain, cette stratégie d'hostilité contre Israël, que ça vaut la peine qu'on y revienne. Mais malgré tout, je reprends le récit depuis l'origine. Lorsque Balak s'est rendu compte que la stratégie de Bilham n'était pas opérante. Et vous vous rappelez pourquoi? C'est le texte qu'on a étudié, le texte de Glilézab, qu'on a étudié à la fin du cours. Parce que lorsqu'il s'agit d'Israël dans sa totalité, dans sa collectivité, Israël est invincible et Bilham a donné comme conseil à Balak de ne voir qu'une partie du camp d'Israël, Efes Katzeu. Vous vous rappelez de cela, hein? Vous avez emporté le papier pour l'étudier. Et ça, c'est aussi un thème extrêmement important. Pourquoi la malédiction se transforme en bénédiction? Parce que même si dire le mal de malédiction, même si c'est effectif pour une partie à l'échelle individuelle, même multipliée, d'Israël, à l'échelle de la collectivité d'Israël, ça s'inverse en bracha. C'est grosso modo ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Et d'où l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le temps actuel, Ahdout Leumit. Je ne sais pas si vous remarquez que toutes les catastrophes qui nous arrivent actuellement, d'un côté comme de l'autre, c'est quand il y a un gouvernement qui ne représente pas vraiment. En général, je me mets à tousser quand je dis du lachon hara. Mais c'est pas le cas. Quand il y a un gouvernement qui ne représente pas vraiment le clan Israël, je pense personnellement, enfin, ça pourrait se discuter, qu'il ne représente pas du tout Israël, ce gouvernement-là, puisque sa majorité n'est pas juive. Mais enfin, c'est encore une autre question. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, de lire le dernier article de Jérusalem Post sur ce problème, qui a été écrit par Maître Rosenbaum. C'est toi qui m'en as parlé encore tout à l'heure. Et oui, de façon extrêmement exacte, c'est un thème très important. Il explique la différence entre légalité et légitimité. Et je reviens donc au sujet. Alors Bilam, selon le Midrash, a donné une autre stratégie, un autre conseil de stratégie à Balak, c'était de pouvoir mettre Israël en difficulté en le mettant en infériorité morale. Cherche un autre mot qu'infériorité, en le mettant en culpabilité. Comment on dit ça en français? Hein? Non, pas encore. Pas exactement ça. En le mettant dans son tort. Et la stratégie qui est indiquée par Bilam à Balak, se rattache à un grave problème qui s'attache à Israël, qui est le problème général, c'est celui des mariages mixtes. Et plus exactement, ce que le Talmud appelle Mita Knaanit, c'est-à-dire le fait que les hommes d'Israël prennent des femmes en dehors d'Israël, sous quelque forme que ce soit, pas forcément pour le mariage même, qu'ils appellent le mariage mixte, ni souhaite arrover, comme on dit, mais Mita Knaanit, c'est-à-dire avoir des rapports avec des femmes étrangères. Et d'ailleurs, il y a une expression aussi qui revient souvent dans le Talmud, qui est Mita Aramit, pas seulement Mita Knaanit. J'ouvre une petite parenthèse et vous me rappellerez où j'étais dans le récit. Pourquoi Mita Aramit? Parce que, effectivement, tout l'effort historique qui commence avec Abraham, c'est de se dégager de la Klipat Aram, c'est-à-dire de l'identité Aram. Et vous savez que tous les ennemis d'Israël les plus difficiles, les plus graves, sont ceux qui étaient originellement de la même identité que la famille d'où est sorti Abraham, qui était une identité araméenne, mais qui ont chacun à sa manière. Je vous les énumère très rapidement. C'est Lot, c'est Ishmaël, c'est Esav. Donc ils sortent de la famille d'Abraham à des titres divers. D'ailleurs, seul Jacob va recevoir le nom d'Israël, parce que seul il arrive à se débarrasser définitivement de Klipat Aram. Et son antagoniste le plus grave, le plus dangereux, c'est Dafka, qui est l'antagoniste de Jacob. Lavan à Arami. Vous voyez que ce n'est pas par hasard que le texte va épingler cette identité araméenne. Je vous donne en particulier un autre exemple qui se rattache à ça. Le sujet est apparemment complètement différent, mais c'est relié à ce fait-là. C'est que les rivaux d'Israël les plus dangereux sont ceux qui sont devenus le plus contre Israël, parce qu'à l'origine, ils étaient le plus proches. Vous voyez, toutes ces lignées qui sont sorties de l'identité araméenne de la famille d'Abraham. Laquelle identité araméenne de la famille d'Abraham? C'était l'identité hébraïque dans l'exil de la civilisation chaldéenne que la Torah appelle Babel. Babel de l'Antiquité. Pourquoi c'est très grave? Pourquoi c'est important? Parce que nous vivons à notre manière. L'histoire ne se répète jamais de la même manière, ni dans la forme ni dans le fond, mais c'est les mêmes situations. La société d'Israël est aux prises avec ce problème d'arriver à se débarrasser de ce qu'on pourrait appeler l'identité galutique. Or, l'identité araméenne, c'était l'identité galutique des Hébreux à Babel. C'est bien clair, je le répéterai souvent de différentes manières, je crois que ça s'éclaircisse. Et c'est pourquoi les différentes tendances de la société juive et israélienne qui s'attachent à cette identité, quand on veut le dire de manière positive, on l'appelle l'identité diasporique, mais en réalité, négativement, c'est une identité galutique, avec tous les problèmes que cela pose, et ce sont des problèmes de démission d'identité, finalement, au moment précisément où nous sommes confrontés à cette mutation historique qui nous fait vivre à l'échelle d'une collectivité l'histoire d'Abraham, redevenir hébreu en se dégageant de l'identité araméenne. Est-ce que c'est clair? Relisez l'histoire d'Abraham, vous verrez qu'il s'agit de ça. Et cette histoire ne réussit qu'avec Jacob. Je vous donne un exemple. Lorsque le Midrash nous enseigne que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations du monde, fermez la porte, que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations du monde, c'est un Midrash très important pour lui-même, il va prendre du temps pour vous en dire l'importance, mais ça met en évidence l'universalité de principe de la Torah par rapport à l'humanité. Ce problème très difficile que finalement c'est une infime minorité des êtres humains que Dieu a créés qui est finalement compatible avec la Torah. C'est un problème en soi. Alors le Midrash quand même, ça se trouve dans différentes sources. Je me base pour l'explication que je vais rappeler maintenant sur la manière dont le Zohar l'explique. Mais les sources classiques sont dans la Gemara. C'est qu'il a proposé à toutes les nations du monde la Torah et les nations du monde l'ont refusé. Et alors, il n'y a pas très longtemps, on a parlé de ça, il me semble. Et il ne faut pas croire que les nations du monde ont refusé la Torah pour refuser toute la Torah, comme si c'était des rechaïm, comment dire, de nature. Que par définition, ils refusent toute idée de Torah. Non, puisque toutes les nations du monde se donnent des lois, se donnent des constitutions. Ce que les rabbins, dans le Talmud, appellent des nimousines. Il n'y a pas de mot en français pour traduire ça, parce que le français, c'est une langue qui, dans ces concepts-là, est dérivée du latin. C'est la notion du droit en latin. Mais le droit en latin, c'est une notion qui a été altérée par l'usage que les juristes en ont fait déjà dès au moment de Rome. En français, quand vous entendez le droit, vous entendez ce qu'en hébreu on appelle yachar, ce qui est droit. C'est-à-dire la justice dans le sens de ce qui est juste. Et en réalité, le droit romain, c'est ce qui est légal. Ce n'est pas ce qui est légitime, pour revenir aux mêmes analyses. Et il n'y a pas de doute que chez les Romains, comme dans tous les peuples, il y avait Chassidei Umotar Olam, qui avaient le sens de la justice. Mais finalement, leurs constitutions sont des constitutions dans la catégorie du droit, et non pas de la morale érigée en légalité. Et alors, quoi qu'il en soit, c'est pourquoi le Talmud va jusqu'à dire, lorsque deux Juifs ont un problème entre eux, et bien entendu, cette loi a été formulée au temps de l'occupation romaine, et elle est valable pour les temps de Galoute. Mais elle est valable en Israël aussi, je vais vous dire comment. En Israël contemporain. Lorsque deux Juifs ont un problème entre eux, et bien la règle, c'est d'aller devant le Beit Din. Et même s'ils allaient devant le tribunal Goy, c'était la même sanction, la même décision, parce que c'est la même conception du droit sur ce problème-là qu'il y aurait dans le tribunal Goy, c'est interdit d'aller au tribunal Goy, il faut préférer aller au Beit Din. Vous avez compris ce que je veux dire? Et pourquoi? Parce que c'est pas parce que la décision, l'argumentation, le scrupule n'existe pas dans les tribunaux des Goyim. Le souci de rechercher ce qui est droit. Mais ce qui est droit pour eux, ça veut dire ce qui est légal, ça ne veut pas dire ce qui est juste. Même si, par façon de parler, parce que c'est la Constitution qui dit que c'est comme ça, ou le dernier vote au Parlement, on va dire c'est ça qui est juste. En réalité, c'est ça qui est légal. Si vous arrivez à voir la différence. Je vous parle dans la parenthèse, regardez l'humour de l'histoire. C'est que ce sont les Romains qui se sont arrangés avec ce que la propagande peut faire. Ce sont les Romains qui se sont arrangés à accuser les Juifs de ce qu'ils appellent le pharisaïsme, c'est-à-dire le jésuitisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, malheureusement, il y a... vous savez que c'était un des arguments les plus systématiques des théologiens chrétiens contre la conception de la loi du judaïsme talmudique, qu'il s'agirait d'argusie légale, du légalisme qui se substitue à la morale. Or, c'est précisément le défaut du droit romain, ce à quoi s'oppose la Torah. Vous voyez, regardez le renversement des choses. Et malheureusement, avec le temps, on est obligé de se rendre compte qu'il y a beaucoup de Juifs qui manient la Torah à la manière romaine, c'est-à-dire à la manière du légalisme formel, pur et simple. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? En tout cas, ce qui m'a moins frappé depuis que je connais la société israélienne, ça fait quand même assez longtemps, c'est que c'est la philosophie du droit des tribunaux civils israéliens. Il y a une espèce de tendance au légalisme formel absolu, et les partis de gauche surtout s'arrangent, ça arrive aussi chez les partis de droite, hein, mais les partis de gauche surtout s'arrangent à faire croire, et c'est surtout les médias qui les aident à cela, que c'est ça ce qui est moral. Alors que c'est ce qui est légal. On cherche les virgules de la forme légale qui justifient une certaine politique. Mais c'est toujours sélectif. C'est quand ça quand ça doit arranger la politique du gouvernement en place. Je pense, enfin furtivement, d'ailleurs c'est pas le sujet, à la décision de la Varada Shamgar. C'est absolument évident qu'on voulait faire une fleur au gouvernement, comme on dit en français. Alors que, regardez comment Sharon s'est empêtré les pédales, parce que dans le cas de la commission Kahan qu'il avait accusé, l'appareil juridique était contre le gouvernement, alors que cette fois-ci, l'appareil juridique est à la solde du gouvernement, enfin à la botte du gouvernement, je ne sais pas comment on dit. Je referme, à la solde dans tous les cas, mais disons à la botte, je referme la parenthèse. J'ai suivi depuis des années la philosophie des décisions de Bagat, ce sont des décisions politiques toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des juges intègres qui recherchent la moralité et pas la légalité, mais il y a, étant donné que les décisions se prennent à la majorité ou à l'unanimité, le choix des juges est un choix d'ordre politique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je referme la parenthèse. Je crois que la plus grande plaie de la société israélienne, et ça vient de la société juive contemporaine, Michlal, c'est effectivement ce légalisme qui a envahi et le monde religieux et le monde, comment dire, enfin, disons, et ceux qui croient qu'ils croient, et ceux qui croient qu'ils croient pas. Parce que les mots n'y vont pas. En tout cas, pour tout le monde croit là-dedans. En tout cas, pour revenir au sujet, si les nations du monde ont refusé la Torah que Dieu propose, c'est-à-dire d'accepter que leur histoire et leur destinée soient jugées d'après la vérité morale, c'est ça le contrat du Sinaï. C'est ça ce que Israël a accepté au Sinaï, que son histoire soit jugée d'après la Torah. C'est pourquoi d'ailleurs, reparenthèse, Moïse, c'est cité dans le Talmud, dans environ des pages 30 de Brachot, Moïse a demandé à ce moment-là que la prophétie soit refusée aux nations. C'est pas le mot exact. Que la prophétie s'arrête chez les nations. Parce que si Israël a accepté cet enjeu d'une histoire si difficile, c'est la seule histoire de la seule nation qui est jugée d'après la morale, et ça se voit bien avant le jugement dernier, ça se voit dans le jugement permanent des nations du monde sur Israël. Et sur le peuple juif et sur Israël, nous sommes la seule société qui est jugée d'après des critères moraux. D'ailleurs, d'une certaine manière indirecte, c'est un compliment. Et les prophètes ne se sont pas lassés de le dire. C'est parce qu'Israël est Israël qu'il est interpellé. Les autres ne sont pas interpellés parce qu'ils ne sont pas interpellables. Je ne sais pas comment dire. Ils se mettraient, d'ailleurs, ils ne prendraient même pas au sérieux. Imaginez qu'on accuse le gouvernement français d'immoralité dans ses décisions d'intervention, de non-intervention en Bosnie ou ailleurs, en Afrique ou ailleurs. Tout le monde rigolerait. Le gouvernement français en premier lieu. Mais chaque fois qu'ils font allusion à des catégories de justice, soi-disant, il s'agit de catégories de droit au service d'une politique. Bon, je referme la parenthèse. Alors, je disais donc que les nations du monde ont refusé la Torah. Alors, en cela, ils ont refusé ce qu'Israël a accepté, que son histoire soit jugée. Elle sera en fin de compte jugée au jugement dernier, mais elle est jugée de manière permanente, à travers tout le temps de l'histoire, d'après les critères de la vérité morale absolue, alors que ce n'est pas le cas pour les autres sociétés. Et le Midrash auquel je pense indique, parce que le Zohar a posé la question, à travers quel prophète Dieu a proposé la Torah aux nations. Alors il y a une allusion que c'est à travers les prophètes de chaque nation. Il y avait cette catégorie, on en a parlé, je crois, la semaine dernière, à propos de Bilam, des prophètes des nations. Le Midrash en question va citer précisément les nations issues de la famille d'Abraham. Pour quelle raison? Et là, vous vous rappelez du raisonnement de l'ensemble des Midrashim, c'est plus précis dans le Zohar, c'est qu'il demande qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah. Ah, il y a tel Mitzvah. D'après notre identité, nous ne pouvons pas être compatibles à cette mitzvah. Je vous donne l'exemple de Esav. Lorsque Rome a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il y a écrit dans ta Torah, alors Dieu a répondu, tu ne tueras pas. Alors Esav a répondu, ben, je ne peux pas accepter cette Torah parce que ma destinée a été donné par la bénédiction de mon père Isaac, Ve'al harbecha tihye, tu vivras de ton épée. C'est comme ça que je suis. Et comment Rome va accepter une loi qui lui interdirait de faire la guerre? Je ne sais pas si vous savez que Rome a été, de toutes les civilisations, la civilisation la plus guerrière qui a jamais été. Et regardez encore une fois ce que fait la propagande. Qu'est-ce que la culture générale a retenu de Rome? Pax Romana, la paix romaine. Et vous savez ce que c'est que la paix romaine. Et j'ai l'habitude, quand je discute avec des Romains, de leur faire comprendre que pour nous, ce sont des Martiens. Vous savez qui était Mars? C'était le dieu de la guerre. Alors ils ont des yeux écarquillés, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est pas par hasard. Quand ils ont voulu faire Tshuva, de toute la Torah, ils ont pris une seule mitzvah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, vous avez remarqué ça, okay? Quand ils ont fait Tshuva, c'est là-dessus qu'ils ont fait Tshuva. Le reste de la Torah, ils ne se rendent pas compte. Parce que c'est la perche qui leur a été donnée pour être sauvés. C'est-à-dire un Romain devenu chrétien pourrait être sauvé s'il est vraiment charitable. C'est pourquoi j'ai dit vraiment. Ça existe, des chrétiens charitables. Je vous dirais même plus, ils sont capables, je pense, à tous ces héros, les petits frères et les petites sœurs de charité, c'est vraiment des héros de la charité, ils sont capables de performances extraordinaires à l'échelle individuelle dans l'ordre de la charité. Tout le reste passe, hein, ça dépasse les racines. Il faut le faire. Eh bien, mais ce sont des individus, oui. En tout cas, ça met bien en évidence que leur manière d'être, c'est la guerre. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont fait Tshuva, lorsqu'ils ont voulu faire Tshuva, c'est pas achevé, ils ont choisi comme idéal précisément la mitzvah qui correspond à cet empêchement d'accepter la Torah. Est-ce que c'est clair? Et c'est vrai pour Amon, pour Moab, pour Ishmaël et pour Esav. Voilà le Midrash, voilà quelles peuplades sont citées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'en était question que pour des peuples qui auraient pu peut-être avoir un lien avec la Torah parce qu'ils avaient un lien d'origine de la famille d'Abraham. C'est clair? Et alors c'est à travers eux que les autres nations du monde ont entendu parler de la Torah. Et ça me rappelle un souvenir d'enfance que j'ai cité il y a quelques années. Quand j'étais jeune étudiant, j'étais très impressionné par une littérature antisémite française qui était celle de Jean et Jérôme Tarot. Ça vous dit ça, les anciens? Alors je me rappelle d'un livre de Jean et Jérôme Tarot, c'était « À l'ombre de la croix ». Et que la communauté juive était à l'ombre de la croix. En réalité, j'avais complété « et du croissant ». Vous savez, la différence entre la croix et le croissant, c'est le sang. Quoi, de toute façon, la croix, c'est rouge. Il appelle ça la croix rouge. Mais le croissant, c'est clair. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est qu'effectivement, les communautés juives ne se sont maintenues que dans les civilisations qui ont été touchées. Dans la Méditerranée, par le christianisme, et dans le sud, par l'islam. Partout ailleurs, l'exil juif s'est dissous, s'est fondu, s'est perdu. Il fallait la clipa, si j'ose dire, de l'église et de la mosquée pour que les juifs puissent tenir le coup. Je vous donne un exemple. Il y a eu une immigration, un exil à travers les siècles des juifs vers la civilisation chinoise. Et la civilisation chinoise est tellement assimilatrice qu'elle les a absorbés. Dans tous les cas, il y a toujours des restes du reste. Actuellement, c'est en train de se faire en civilisation américaine. La civilisation américaine est en train d'absorber ces juifs. Je fais partie de réunions de démographes et de gens qui s'occupent de cela. Dans pas très longtemps, le juif américain, ce sera vraiment le reste du reste du reste. Ça va disparaître. Dans pas très longtemps, il y aura quelques centaines de milliers de juifs en Russie. Enfin, je veux dire, une génération et demie, pas plus. J'ai assisté il y a quelques jours à une réunion avec des juifs américains très convaincu de leur résistance juive contre l'assimilation. Et une bonne femme qui est présidente d'une œuvre juive, je ne sais plus dans quel trou d'Amérique, Enfin, quel trou. C'est une éponge tellement énorme que je ne pourrais pas vous dire. Alors qu'il disait très sérieusement que chez eux, la tradition juive, son fils aime la soupe du vendredi soir avec les boulettes qu'on appelle, vous savez comment. Voilà. C'est ça son judaïsme. Allez, bon, vous riez, moi aussi j'ai ri, mais il ne faut pas rire. C'est attendrissant. Parce que des fois, ça et que ça, ça les laisse. Non. Mais pour vous dire le drame du problème. Bon, j'ai fait partie d'une génération de juifs algériens où la majorité des gens qui restaient encore autour de la synagogue, c'est parce qu'ils aimaient la musique arabe et qu'on chantait les prières sur des mélodies andalouses. Je vous garantis que c'est comme ça, en grande majorité. Et après, ils allaient se régaler des plats traditionnels juifs qui étaient des plats berbères judaïsés. Enfin, grosso modo. Vous connaissez ça dans toute la communauté, d'ailleurs, je suppose. Donc, eh bien, alors vous voyez quel est le problème. C'est que nous avons eu des différents. Israël a été interpellé à travers l'histoire par ces branches de la famille d'Abraham qui étaient d'origine, de la même origine, l'origine araméenne. La Bible a été très sobre sur toute cette préhistoire de la sortie de la famille d'Abraham d'Ur-Kasdim. Parce que l'histoire d'Israël a un pré-commencement avec la sortie d'Abraham d'Ur-Kasdim, mais elle commence à la sortie d'Égypte. Mais imaginez le tri d'identité, le brassage d'identité qu'il y a eu à partir de l'identité hébraïque originelle à travers cette civilisation de l'Antiquité. La civilisation de Babel qui avait une annexe, celle de l'Égypte. Et puis, uniquement ceux qui ont traversé les épreuves d'identité à travers toute cette confrontation d'identité, encore une fois, de l'hébreu enfoui dans la clipa. Clipa, c'est impossible à traduire en français. L'écorce, mais c'est une écorce impure. Vous savez, l'écorce, la Kabbalah donne beaucoup d'importance à l'écorce. Parce que c'est en même temps ce qui protège le fruit et ce qui est le contraire du fruit. Je ne sais pas si c'est clair. Et vous avez des fruits qui sont enveloppés de la clipa, vous avez au contraire des fruits dont la clipa est intérieure. Il y a deux, on utilise ça dans les kavanot des brachot, surtout de Tu Bishvat. Il y a deux exemples du tzaddik. Le tzaddik qui est comparé à une grenade, la clipa est à l'extérieur, et le tzaddik est comparé à une date, la clipa est à l'intérieur. C'est le noyau qui est la clipa dans la date. Alors dans le rimon, c'est les dafka, les garinim qui sont le fruit. Je me rappelle d'une leçon du Rav Yehuda Zechanoivracha là-dessus qui était extraordinaire. Je me rappelle d'ailleurs, ça doit être dans mes archives quelque part, j'avais tout de suite écrit ce qu'il nous avait enseigné, c'est assez extraordinaire. Il y a deux sortes de tzaddik. Ce dont la clipa Kodem et la péri, et ce dont le péri est Kodem de la clipa. Alors, on sait à qui on a affaire, si c'est un tzaddik dans le genre de Rimon, ou si c'est un tzaddik dans le genre du Tamar. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, quand on a étudié Parashat Korach, il y a un midrash qui enseigne cela. Il me semble que je l'ai écrit au tableau, mais je ne peux pas me lever aujourd'hui. Vous visualisez tzaddik, katamar, ifrah, les safetevot, c'est korah. Mais à la fin des trois mots, le mot de korah apparaît. Tzaddik, kuf, katamar, resh, ifrah, het. Vous voyez, la klipa est intérieure, korah est intérieure au tzaddik comparé au tamar. Et alors que ce que le Talmud dit du Rimon, c'est rekanim, Bé Israël, c'est chez Bé Israël ou Bé Israël. Bon, Rekanim, chez Bé Israël, Meleim Mitzvot Karimon. Les gens les plus vides d'Israël sont pleins de Mitzvot comme la grenade. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils sont vides, ils ne sont pas pleins. Vous voyez que, pourquoi un verre vide, il faut le remplir? Parce qu'on le plaît. Et le Rav nous expliquait que c'est dans l'essence d'Israël qu'il y a des mitzvot. Ça veut dire, même s'ils sont vides de mitzvot au niveau des actes, ils sont pleins de mitzvot, comme la grenade qui est constituée par ces garélines. Vous avez compris? Ils sont pleins de mitzvot d'être. Bon, je reviens au sujet. Alors effectivement, je reprends le récit. Lorsque Bilam a vu que sa stratégie ne pouvait pas réussir, qu'il n'arrivait pas à attraper Israël dans Efet Katzehu, en critiquant telle ou telle partie, puisqu'Israël était uni dans le désert, il faudrait une fois que vous étudiez l'ordonnance du camp dans le désert, comment les 12 tribus étaient situées autour du Mishkan, grâce aux Lévites. Et j'ouvre ici une parenthèse qui me semble très importante, cette Ahdout d'Israël dépend de la tribu de Lévi. Quand vous verrez l'énumération de la naissance des enfants de Jacob, les enfants de Léa et les enfants de Rachel, il y a un cas particulier pour Lévi. Et le fait que les enfants de Léa, c'est le nom de Hachem, vérifié, hein, parce que j'ai un doute, mais vérifie, je crois que c'est ça, mais vérifie. Les enfants de Léa, c'est le nom de Hachem qui est indiqué. Les enfants de Rachel, c'est le nom de Elohim. Mais pour Lévi, il n'y a ni Hachem ni Elohim, parce que Hachem ou Elohim. Parce que c'est Lévi qui fait le trait d'union des tribus. Il y a les 12 tribus, et c'est la 13e, la tribu de Lévi, qui les unifie. Et si la tribu de Lévi ne joue pas son rôle, alors il n'y a pas de Ahdout. Je relis ça immédiatement au fait que Pinchas fait partie de la tribu de Lévi. Il va intervenir à un moment où il risque d'y avoir une catastrophe en Israël, parce que précisément, voilà la dernière stratégie secrète que Bilam a donné à Balak, c'est de mettre Israël en état d'infériorité morale et spirituelle et parler Gilou Arayot. Je reviens au problème du mariage mixte, de la Mita Aramite. Ça y est, on a bouclé la boucle. C'est les filles de Moab avaient décidé, enfin Balak a obtenu des filles de Moab qu'elles séduisent les hommes d'Israël, les grands d'Israël. Une espèce de commando, on a l'air de lire un des chapitres d'Alexandre Dumas lorsqu'il raconte comment les femmes catholiques séduisaient les officiers protestants dans la guerre de religion en France. Je referme la parenthèse. C'est vrai d'ailleurs comme épisode. Et alors, elles ont amené à la débauche, et de la débauche à l'idolâtrie, les Hébreux. Donc les Hébreux étaient en danger, et il y a eu une maguefa. Une maguefa, c'est-à-dire une catastrophe qui a atteint le peuple. Par ce biais-là, avant de continuer la lecture, je vous annonce le sujet qu'on va étudier. Chaque fois qu'il y a eu une grave maguefa, il fallait faire un dénombrement pour savoir s'il y avait un nombre suffisant pour pouvoir achever la marche du désert et rentrer dans le pays. Parce que le pays devait être distribué selon les différents noms des familles qui étaient sorties d'Égypte. Et alors, si les familles qui rentrent en Égypte ne correspondent pas au nombre et au nom des familles qui sont sorties d'Égypte, il y a impossibilité. Ça touche un peu à ta question tout à l'heure. Il y a il y a deux termes qui sont employés par la Torah, Yerusha et Nachala. C'est-à-dire, ceux qui sont sortis d'Égypte ont fait hériter à ceux qui vont rentrer dans le pays. Alors d'où la nécessité de dénombrement chaque fois qu'il y a une catastrophe. Il y en a eu trois principales. Après la faute du veau d'or, il a fallu dénombrer pour voir combien il en reste. Après la révolte de Korach, il a fallu dénombrer. Et après l'affaire de Moab, il a fallu dénombrer. Qui pourrait dire ce qui... Tzadachavé, comment dire ça en français, le principe unique de ces trois épisodes, la logique de ces trois épisodes, la faute du veau d'or, la révolte de Korach, la débauche.
Ce sont des fautes.
Ce sont des fautes, mais pourquoi ces trois fautes-là? Non, vous êtes tout prêts, vous allez.
Est-ce qu'elle mène toute idolâtrie?
Oui, par quel biais?
Mais c'est pas.
La lutte contre le
Mani, Moshe. Ah, la mère, j'entends pas.
Dis-le, il y a la lutte de s'opposer au Mani, qui est Moshe.
Ça, c'est Korach. Oui, oui, c'est pas lui.
C'est en fait Emmanuel Mme Boulatry, mais par les relations sexuelles interdites.
Oui, non, mais c'est pas ma question.
C'est les trois choses pour lesquelles on doit mourir.
Très bien. Avec la robe. Bien fait. Comment ça se dit en hébreu? Non, ce que je viens de dire. La faute du Vaudor, c'est Avodah Zara.
Oui.
Korar. Et Avodah Zara, c'est Benazam Lamakom. Korar, c'est la faute du Talmid Chacham. C'est Benazam Leratmo. Et Gilur Alayot, c'est Benazam Lachaveru. Non, l'inverse, c'est ça. Korar, c'est la Mahloket, c'est Benazam Lachaveru. Gloire à la Yod, c'est Benazam Leratmo. Je reprends. La faute du Vaudor, c'est Benazam Lamakom. Korar, c'est Mahloket, Benazam Lachaveru. Gloire à la Yod, c'est Benazam Leratmo. C'est effectivement les trois fautes graves par lesquelles le rachat est défini. Qu'est-ce que c'est un rachat? C'est celui qui est rachat, soit à la manière de Avodah Zara, soit à la manière de Gilur Arayot, soit à la manière de Shfichut Damim. C'est clair. Vous avez compris pourquoi? Alors chaque fois, il fallait un dénombrement, nous allons étudier ce qui caractérise ce dénombrement, qui a pour cause le fait qu'il y a eu une magéfa, et pour tachlit, pour finalité, le fait de savoir s'il y a suffisamment de noms des familles. Je vais surtout parler de ça pour pouvoir entrer dans le pays et partager le pays. Ça y est, c'est clair jusque-là le problème. Alors on continue là-dessus. Vous voyez pourquoi Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, c'est lui qui va intervenir pour pouvoir arrêter cette magéfa. Vous lirez les versets immédiatement précédents. Okay. Prenez le verset 8 précédent pendant que je m'enlève. La veste. Tiens, là. Allez, le verset 8 du chapitre 25. Quand Pinchas s'est aperçu que un chef de tribu d'Israël était allé avec une princesse des Moabites, des Midianites, elle s'appelait Kotzbi Batsour, et lui s'appelait Zimri Benson. Rappelez-moi, je vous raconte une histoire sur Kissinger. Je pense que vous avez déjà remarqué. Ouais, c'était son cas, Kissinger, d'ailleurs. Je me rappelle quand le Rav Kook nous disait, vous savez, quand Kissinger faisait les diluves, les petits pas, qui c'est maintenant qui fait ça? Christopher.
Christopher.
Alors lui, c'est pire, c'est le Christ offert. alors, il disait, celui-là, c'est Zimri Ben Salou. Parce que Zimri, c'est Singer. Okay. Et alors, il avait embrassé, je ne sais plus quel arabe. Kiss. Singer. On a oublié ce truc-là. Mais je me rappelle quand j'étais au Talmud Torah, c'est en Algérie, on prononçait le français à l'algérienne. On l'appelait ce fils de Salou. Zibri. Alors je reviens. Vayabo, aha, Ish Israël et Lakouba. Et Pinchas est allé après cet homme d'Israël dans la tente. Vaitko et Tchneem, il a transpercé tous les deux. Et Ish Israël.